Chapitre 13. L'appartement de Madame de Sauve. Sire, vous serez roi. Catherine ne s'était pas trompée dans ses soupçons. Henri avait repris ses habitudes et chaque soir, il se rendait chez Madame de Sauve. D'abord, il avait exécuté cette excursion avec le plus grand secret, puis, peu à peu, il s'était relâché de sa défiance, avait négligé ses précautions, de sorte que Catherine n'avait pas eu de peine à s'assurer que la reine de Navarre continuait d'être de nom Marguerite, de fait Madame de Sauve. Nous avons dit deux mots au commencement de cette histoire de l'appartement de Madame de Sauve. Mais la porte ouverte par Dariole au roi de Navarre s'était hermétiquement refermée sur lui, de sorte que cet appartement, théâtre des mystérieuses amours du Béarnais, nous est complètement inconnu. Ce logement, du genre de ceux que les princes fournissent à leurs commensaux dans les palais qu'ils habitent, afin de les avoir à leur portée, était plus petit et moins commode que n'eût certainement été un logement situé par la ville. Il était, comme on le sait déjà, placé au second, à peu près au-dessus de celui d'Henri, et la porte s'en ouvrait sur un corridor dont l'extrémité était éclairée par une fenêtre ogivale à petits carreaux enchâssés de plomb, laquelle, même dans les plus beaux jours de l'année, ne laissait pénétrer qu'une lumière douteuse. Pendant l'hiver, dès 3 heures de l'après-midi, on était obligé d'y allumer une lampe, qui, ne contenant été comme hiver que la même quantité d'huile, s'éteignait alors vers les 10 heures du soir et donnait ainsi, depuis que les jours d'hiver étaient arrivés, une plus grande sécurité aux deux amants. Une petite antichambre tapissée de damas de soie à larges fleurs jaunes, une chambre de réception tendue de velours bleu, une chambre à coucher, dont le lit à colonne torse et un rideau de satin cerise enchâssé, une ruelle ornée d'un miroir garni d'argent et de 2 tableaux tirés des amours de Vénus et d'Adonis, tel était le logement, aujourd'hui l'on dirait le nid, de la charmante fille d'Atour de la reine Catherine de Médicis. En cherchant bien, on eut encore, en face d'une toilette garnie de tous ses accessoires, trouvé, dans un coin sombre de cette chambre, une petite porte ouvrant sur une espèce d'oratoire, où, exhaussé sur 2 gradins, s'élevait un prie-dieu. Dans cet oratoire était pendu à la muraille, et comme pour servir de correctif aux 2 tableaux mythologiques dont nous avons parlé, 3 ou 4 peintures du spiritualisme le plus exalté. Entre ces peintures étaient suspendues à des clous dorés des armes de femmes, car à cette époque de mystérieuses intrigues, les femmes portaient des armes comme les hommes et parfois s'en servaient aussi habilement qu'eux. Ce soir-là, qui était le lendemain du jour où s'étaient passées chez Maître René les scènes que nous avons racontées, Madame de Sauve, assise dans sa chambre à coucher sur un lit de repos, racontait à Henri ses craintes et son amour, et lui donnait comme preuve de ses craintes et de cet amour le dévouement qu'elle l'avait montré dans la fameuse nuit qui avait suivi celle de la Saint-Barthélemy, nuit que Henri, on se rappelle, avait passée chez sa femme. Henri, de son côté, lui exprimait sa reconnaissance. Madame de Sauve était charmante ce soir-là dans son simple peignoir de batiste et Henri était très reconnaissant. Au milieu de tout cela, comme Henri était réellement amoureux, il était rêveur. De son côté, Madame de Sauve, qui avait fini par adopter de tout son cœur cet amour commandé par Catherine, regardait beaucoup Henri pour voir si ses yeux étaient d'accord avec ses paroles. « Voyons, Henri, disait Madame de Sauve, soyez franc. Pendant cette nuit passée dans le cabinet de Sa Majesté la Reine de Navarre avec Monsieur de La Mole à vos pieds, n'avez-vous pas regretté que ce digne gentilhomme se trouvât entre vous et la chambre à coucher de la Reine ?» « Oui, en vérité, mamie, dit Henri, car il me fallait absolument passer par cette chambre pour aller à celle où je me trouve si bien et où je suis si heureux en ce moment. » Madame de Sauve sourit. « Et vous n'y êtes pas rentrée depuis ?»« Que les fois que je vous ai dites. » »« Vous n'y rentrerez jamais sans me le dire ?»« Jamais. » »« En jureriez-vous ?»« Oui, certainement, si j'étais encore huguenot, mais... » Mais quoi? Mais la religion catholique dont j'apprends les dogmes en ce moment m'a appris qu'on ne doit jamais jurer. Gascon, dit Madame de Sauve en secouant la tête. Mais à votre tour, Charlotte, dit Henri, si je vous interrogeais, répondriez-vous à mes questions? Sans doute, répondit la jeune femme, mais je n'ai rien à vous cacher. Voyons, Charlotte, dit le roi, expliquez-moi une bonne fois comment il se fait qu'après cette résistance désespérée qui a précédé mon mariage, vous soyez devenue moins cruelle pour moi, qui suis un gauche biarné, un provincial ridicule, un prince trop pauvre, enfin, pour entretenir brillant les joyaux de sa couronne. Henri, dit Charlotte, vous me demandez le mot de l'énigme que cherchent depuis 3000 ans les philosophes de tous les pays. Henri, ne demandez jamais à une femme pourquoi elle vous aime. Contentez-vous de lui demander « m'aimez-vous ?»« M'aimez-vous, Charlotte ?» demanda Henri. « Je vous aime, » répondit Madame de Sauve avec un charmant sourire et en laissant tomber sa belle main dans celle de son amant. Henri retint cette main. « Mais, reprit-il, poursuivant sa pensée, si je l'avais deviné, ce mot que les philosophes cherchent en vain depuis 3000 ans, du moins relativement à vous, Charlotte ?» Madame de Sauve rougit. « Vous m'aimez, » continua Henri, « par conséquent, je n'ai pas autre chose à vous demander, et je me tiens pour le plus heureux homme du monde. Mais, vous le savez, au bonheur, il manque toujours quelque chose. » Adam, au milieu du paradis, ne s'est pas trouvé complètement heureux et il a mordu à cette misérable pomme qui nous a donné à tous ce besoin de curiosité qui fait que chacun passe sa vie à la recherche d'un inconnu quelconque. Dites-moi, mamie, pour m'aider à trouver le mien, n'est-ce point la reine Catherine qui vous a dit d'abord de m'aimer ? Henri, dit Madame de Sauve, parlez bas quand vous parlez de la reine mère. « Oh !» dit Henri, avec un abandon et une confiance à laquelle Madame de Sauve fut trompée elle-même. « C'était bon autrefois de me défier d'elle, cette bonne mère, quand nous étions mal ensemble, mais maintenant que je suis le mari de sa fille. » « Le mari de Madame Marguerite, » dit Charlotte en rougissant de jalousie. « Parlez bas, à votre tour, » dit Henri, « maintenant que je suis le mari de sa fille, nous sommes les meilleurs amis du monde. Que voulait-on que je me fisse catholique, à ce qu'il paraît ? Eh bien, la grâce m'a touché, et par l'intercession de la Saint-Barthélemy, je le suis devenu. Nous vivons maintenant en famille, comme de bons frères, comme de bons chrétiens. » « Et la reine Marguerite ?»« La reine Marguerite, » dit Henri, « eh bien, elle est le lien qui nous unit tous. » « Mais vous m'avez dit, Henri, que la reine de Navarre, en récompense de ce que j'avais été dévoué pour elle, avait été généreuse pour moi. Si vous avez dit vrai, si cette générosité pour laquelle je lui ai voué une si grande reconnaissance est réelle, elle n'est qu'un lien de convention facile à briser. Vous ne pouvez donc vous reposer sur cet appui, car vous m'en avez imposé à personne avec cette prétendue intimité. » « Je m'y repose cependant, et c'est depuis 3 mois l'oreiller sur lequel je dors. »« Alors, Henri, s'écria Madame de Sauve, c'est que vous m'avez trompé, c'est que, véritablement, Madame Marguerite est votre femme. » Henri sourit. « Tenez, Henri, dit Madame de Sauve, voilà de ces sourires qui m'exaspèrent et qui font que, tout roi que vous êtes, il me prend parfois de cruelles envies de vous arracher les yeux. » « Allons, dit Henri, j'arrive donc à en imposer sur cette prétendue intimité, puisqu'il y a des moments où, tout roi que je suis, vous voulez m'arracher les yeux, parce que vous croyez qu'elle existe. « Henri, Henri, dit Madame de Sauve, je crois que Dieu lui-même ne sait pas ce que vous pensez. « Je pense, mamie, dit Henri, que Catherine vous a dit d'abord de m'aimer, que votre cœur vous l'a dit ensuite. » Et que, quand ces deux voix vous parlent, vous n'entendez que celle de votre cœur. Maintenant, moi aussi, je vous aime de toute mon âme, et même c'est pour cela que, lorsque j'aurai des secrets, je ne vous les confierai pas, de peur de vous compromettre, bien entendu, car l'amitié de la reine est changeante, c'est celle d'une belle-mère. Ce n'était point là le conte de Charlotte. Il lui semblait que ce voile qui s'épaississait entre elle et son amant toutes les fois qu'elle voulait sonder les abîmes de ce cœur sans fond prenait la consistance d'un mur et les séparait l'un de l'autre. Elle sentit donc les larmes envahir ses yeux à cette réponse. Et comme en ce moment 10 heures sonnèrent, « Sire, dit Charlotte, voici l'heure de me reposer. Mon service m'appelle de très bon matin demain chez la reine-mère. » « Vous me chassez donc ce soir, mamie ?» dit Henri. « Henri, je suis triste. Étant triste, vous me trouverez maussade, et me trouvant maussade, vous ne m'aimeriez plus. Vous voyez bien qu'il vaut mieux que vous vous retiriez. » « Soit, dit Henri, je me retirerai si vous l'exigez, Charlotte, seulement, ventre saint gris, vous m'accorderez bien la faveur d'assister à votre toilette. » Mais la reine Marguerite, sire, ne la ferez-vous pas attendre en y assistant? Charlotte, répliqua Henri sérieux, il avait été convenu entre nous que nous ne parlerions jamais de la reine de Navarre, et ce soir, ce me semble, nous n'avons parlé que d'elle. Madame de Sauve soupira, et elle alla s'asseoir devant sa toilette. Henri prit une chaise, la traîna jusqu'à celle qui servait de siège à sa maîtresse, et mettant un genou dessus et s'appuyant au dossier, Allons, dit-il, ma bonne petite Charlotte, que je vous vois faire belle et belle pour moi, quoi que vous en disiez. Mon Dieu, que de choses, que de pots de parfum, que de sacs de poudre, que de fioles, que de cassolettes. Cela paraît beaucoup, dit Charlotte en soupirant, et cependant c'est trop peu, puisque je n'ai pas encore, avec tout cela, trouvé le moyen de régner seul sur le cœur de votre majesté. « Allons, dit Henri, ne retombons pas dans cette politique. Qu'est-ce que ce petit pinceau si fin, si délicat, ne serait-ce pas pour peindre les sourcils de mon Jupiter olympien ?»« Oui, sire, répondit Madame de Sauve en souriant, et vous avez deviné du premier coup. Et ce joli petit râteau d'ivoire, c'est pour tracer la ligne des cheveux. » Et cette charmante petite boîte d'argent au couvercle ciselé, oh, cela, c'est un envoi de René, sire, c'est le fameux opiat qu'il me promet depuis si longtemps pour adoucir encore ses lèvres que votre majesté a la bonté de trouver quelquefois assez douces. Et Henri, comme pour approuver ce que venait de dire la charmante femme dont le front s'éclaircissait à mesure qu'on la remettait sur le terrain de la coquetterie, appuya ses lèvres sur celles que la baronne regardait avec attention dans son miroir. Charlotte porta la main à la boîte qui venait d'être l'objet de l'explication ci-dessus, sans doute pour montrer à Henri de quelle façon s'employait la pâte vermeille lorsqu'un coup sec frappé à la porte de l'antichambre fit tressaillir les deux amants. « On frappe, madame, » dit Dariole en passant la tête par l'ouverture de la portière. « Va t'informer qui frappe et revient, » dit madame de Sauve. Henri et Charlotte se regardèrent avec inquiétude, et Henri songeait à se retirer dans l'oratoire, où déjà plus d'une fois il avait trouvé un refuge, lorsque Dariole reparut. « Madame, » dit-elle, « c'est maître René, le parfumeur. » À ce nom, Henri fronça le sourcil et se pinça involontairement les lèvres. « Voulez-vous que je lui refuse la porte ?» dit Charlotte. « Non pas, » dit Henri. « Maître René ne fait rien sans avoir auparavant songé à ce qu'il fait. S'il vient chez vous, c'est qu'il a des raisons d'y venir. Voulez-vous vous cacher, alors ?»« Je m'en garderai bien, » dit Henri, « car Maître René sait tout, et Maître René sait que je suis ici. Mais votre majesté n'a-t-elle pas quelque raison pour que sa présence lui soit douloureuse ?» « Moi, » dit Henri, en faisant un effort que, malgré sa puissance sur lui-même, il ne put tout à fait dissimuler, « moi, aucune. Nous étions en froid, c'est vrai, mais depuis le soir de la Saint-Barthélemy, nous sommes raccommodés. »« Faites entrer, » dit Madame de Sauve à Dariole. Un instant après, René parut et jeta un regard qui embrassa toute la chambre. Madame de Sauve était toujours devant sa toilette. Henri avait repris sa place sur le lit de repos. Charlotte était dans la lumière et Henri dans l'ombre. « Madame, » dit René, avec une respectueuse familiarité, « je viens vous faire mes excuses. »« Et de quoi donc, René ?» demanda Madame de Sauve avec cette condescendance que les jolies femmes ont toujours pour ce monde de fournisseurs qui les entoure et qui tend à les rendre plus jolies. « De ce que, depuis si longtemps, j'avais promis de travailler pour ces jolies lèvres et de ce que... « De ce que vous n'avez tenu votre promesse qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ?» dit Charlotte. « Qu'aujourd'hui ?» répéta René. « Oui, c'est aujourd'hui seulement, et même ce soir, que j'ai reçu cette boîte que vous m'avez envoyée. »« Ah, en effet, » dit René, en regardant avec une expression étrange la petite boîte d'opia qui se trouvait sur la table de Madame de Sauve et qui était en tout point pareille à celle qu'il avait dans son magasin. « J'avais deviné, » murmura-t-il. « Et vous vous en êtes servi ?»« Non, pas encore, et j'allais l'essayer quand vous êtes entré. » La figure de René prit une expression rêveuse qui n'échappa point à Henri, auquel d'ailleurs bien peu de choses échappaient. « Eh bien, René, qu'avez-vous donc ?» demanda le roi. « Moi, rien, sire, » dit le parfumeur, « j'attends humblement que votre majesté m'adresse la parole avant de prendre congé de madame la baronne. » « Allons donc, » dit Henri en souriant, « avez-vous besoin de mes paroles pour savoir que je vous vois avec plaisir ?»« René regarda autour de lui, fit le tour de la chambre comme pour sonder de l'œil et des oreilles les portes et les tapisseries, puis s'arrêtant de nouveau et se plaçant de manière à embrasser du même regard Madame de Sauve et Henri, « Je ne le sais pas, » dit-il. Henri, averti grâce à cet instinct admirable qui, pareil à un sixième sens, le guida pendant toute la première partie de sa vie au milieu des dangers qui l'entouraient, qu'il se passait en ce moment quelque chose d'étrange et qui ressemblait à une lutte dans l'esprit du parfumeur, se tourna vers lui et, tout en restant dans l'ombre tandis que le visage du Florentin se trouvait dans la lumière, « Vous, à cette heure ici, René ?» lui dit-il. « Aurais-je le malheur de gêner votre majesté ?» répondit le parfumeur en faisant un pas en arrière. « Non pas, seulement je désire savoir une chose. »« Laquelle, sire ? Pensiez-vous me trouver ici ? J'en étais sûr. »« Vous me cherchez donc ? Je suis heureux de vous rencontrer, du moins. »« Vous avez quelque chose à me dire ?» insista Henri. « Peut-être, sire, » répondit René. Charlotte rougit, car elle tremblait que cette révélation que semblait vouloir faire le parfumeur ne fût relative à sa conduite passée envers Henri. Elle fit donc comme si, tout au soin de sa toilette, elle n'eût rien entendu, et, interrompant la conversation, « Ah, en vérité, René, s'écria-t-elle en ouvrant la boîte d'opia, vous êtes un homme charmant, cette pâte est d'une couleur merveilleuse, et puisque vous voilà, je vais, pour vous faire honneur, expérimenter devant vous votre nouvelle production. » Et elle prit la boîte d'une main, tandis que de l'autre elle effleurait du bout des doigts la pâte rosée que devait passer le doigt sur les lèvres. René tressaillit. La baronne approcha en souriant l'opia de sa bouche. René pâlit. Henri, toujours dans l'ombre, mais les yeux fixes et ardents, ne perdait ni un mouvement de l'un, ni un frisson de l'autre. La main de Charlotte n'avait plus que quelques lignes à parcourir pour toucher ses lèvres lorsque René lui saisit le bras au moment où Henri se levait pour en faire autant. Henri retomba sans bruit sur son lit de repos. « Un moment, madame, » dit Henri avec un sourire contraint, « mais il ne faudrait pas employer cet opia sans quelques recommandations particulières. » « Et qui me les donnera, ces recommandations ?»« Moi. Quand cela ?» Aussitôt que je vais avoir terminé ce que j'ai à dire à Sa Majesté, le roi de Navarre. » Charlotte ouvrit de grands yeux, ne comprenant rien à cette espèce de langue mystérieuse qui se parlait auprès d'elle, et elle resta tenant le pot d'opia d'une main et regardant l'extrémité de son doigt rougi par la pâte carminée. Henri se leva, ému par une pensée qui, comme toutes celles du jeune roi, avait deux côtés, l'un qui paraissait superficiel et l'autre qui était profond. Il alla prendre la main de Charlotte et fit, toute rougie qu'elle l'était, un mouvement pour la porter à ses lèvres. « Un instant, » dit vivement René, « un instant. Veuillez, madame, laver vos belles mains avec ce savon de Naples que j'avais oublié de vous envoyer en même temps que l'opia et que j'ai eu l'honneur de vous apporter moi-même. » Et, tirant de son enveloppe d'argent une tablette de savon de couleur verdâtre, il la mit dans un bassin de vermeil et versa de l'eau et un genou en terre, présenta le tout à Madame de Sauve. « Mais en vérité, maître René, je ne vous reconnais plus, » dit Henri, « vous êtes d'une galanterie à laisser loin de vous tous les muguets de la cour. » « Oh, quel délicieux arôme !» s'écria Charlotte en frottant ses belles mains avec de la mousse nacrée qui se dégageait de la tablette embaumée. René accomplit ses fonctions de cavalier servant jusqu'au bout. Il présenta une serviette de fine toile de frise à Madame de Sauve qui essuya ses mains. « Et maintenant, » dit le Florentin à Henri, « faites à votre plaisir, monseigneur. » Charlotte présenta sa main à Henri, qui la baisa, et tandis que Charlotte se tournait à demi sur son siège pour écouter ce que René allait dire, le roi de Navarre alla reprendre sa place, plus convaincu que jamais qu'il se passait dans l'esprit du parfumeur quelque chose d'extraordinaire. « Eh bien, » demanda Charlotte. Le Florentin parut rassembler toute sa résolution et se tourna vers Henri. « Sire, dit René à Henri, je viens vous parler d'une chose dont je m'occupe depuis longtemps. »« De parfum, » dit Henri en souriant. « Eh oui, sire, de parfum, » répondit René avec un singulier signe d'acquiescement. « Parlez, je vous écoute, c'est un sujet qui de tout temps m'a fort intéressé. » René regarda Henri pour essayer de lire, malgré ses paroles, dans cette impénétrable pensée, mais voyant que c'était chose parfaitement inutile, il continua. Un de mes amis, sire, arrive de Florence. Cet ami s'occupe beaucoup d'astrologie. Oui, interrompit Henri, je sais que c'est une passion florentine. Il a, en compagnie des premiers savants du monde, tiré les horoscopes des principaux gentilshommes de l'Europe. Ah ah, fit Henri. Et comme la maison de Bourbon est en tête des plus hautes, descendant comme elle le fait du comte de Clermont, cinquième fils du Saint-Louis, votre majesté doit penser que le sien n'a pas été oublié. Henri écouta plus attentivement encore. Vous vous souvenez de cet horoscope? Dit le roi de Navarre avec un sourire qu'il essaya de rendre indifférent. Oui, reprit René en secouant la tête, votre horoscope n'est pas de ceux qu'on oublie. En vérité, dit Henri avec un geste ironique. Oui, sire, votre majesté, selon les termes de cet horoscope, est appelée aux plus brillantes destinées. L'œil du jeune prince lança un éclair involontaire qui s'éteignit presque aussitôt dans un nuage d'indifférence. Tous ces oracles italiens sont flatteurs, dit Henri. Or, qui dit flatteur dit menteur. N'y en a-t-il pas qui m'ont prédit que je commanderais des armées, moi? Il éclata de rire. Mais un observateur moins occupé de lui-même que n'était René eut vu et reconnut l'effort de ce rire. Sire, dit froidement René, l'horoscope annonce mieux que cela. Annonce-t-il qu'à la tête d'une de ces armées, je gagnerai des batailles? Mieux que cela, sire. Allons, dit Henri, vous verrez que je serai conquérant. Sire, vous serez roi. Eh, ventre saint gris, dit Henri en réprimant un violent battement de cœur, ne le suis-je point déjà? Sire, mon ami sait ce qu'il promet. Non seulement vous serez roi, mais vous régnerez. Alors, dit Henri, avec son même ton railleur, votre ami a besoin de 10 écus d'or, n'est-ce pas, René? Car une pareille prophétie est bien ambitieuse par le temps qui court, surtout. Allons, Henri, je ne suis pas riche. Je donnerai à votre ami 5 tout de suite et 5 autres quand la prophétie sera réalisée. Sire, dit Madame de Sauve, n'oubliez pas que vous êtes déjà engagé avec Dariole et ne vous surchargez pas de promesses. Madame, dit Henri, ce moment venu, j'espère que l'on me traitera en roi et que chacun sera fort satisfait si je tiens la moitié de ce que j'ai promis. Sire, reprit René, je continue. Ah, ce n'est pas tout, dit Henri. Soit, si je suis empereur, je donne le double. Sire, mon ami revint donc de Florence avec cet horoscope qu'il renouvela à Paris et qui donna toujours le même résultat, et il me confia un secret. Un secret qui intéresse Sa Majesté? Demanda vivement Charlotte. Je le crois, dit le Florentin. Il cherche ses mots, pensa Henri, sans aider en rien René. Il paraît que la chose est difficile à dire. Alors parlez, reprit la baronne de Sauve, de quoi s'agit-il? Il s'agit, dit le Florentin en pesant une à une toutes ses paroles, il s'agit de tous ces bruits d'empoisonnement qui ont couru depuis quelque temps à la cour. Un léger gonflement de narines du roi de Navarre fut le seul indice de son attention croissante à ce détour subit que faisait la conversation. Et votre ami le Florentin, dit Henri, c'est des nouvelles de ces empoisonnements? Oui, sire. Comment me confiez-vous un secret qui n'est pas le vôtre, René, surtout quand ce secret est si important? Dit Henri du ton le plus naturel qu'il put prendre. Cet ami a un conseil à demander à votre majesté. À moi? Qu'y a-t-il d'étonnant à cela, sire? Rappelez-vous le vieux soldat d'Actium qui, ayant un procès, demandait un conseil à Auguste. Auguste était avocat, René. Je ne le suis pas. Sire, quand mon ami me confia ce secret, votre majesté appartenait encore au parti calviniste dont vous étiez le premier chef et monsieur de Condé le second. Après, dit Henri, cet ami espérait que vous useriez de votre influence toute puissante sur monsieur le prince de Condé pour le prier de ne pas lui être hostile. Expliquez-moi cela, René, si vous voulez que je comprenne, dit Henri, sans manifester la moindre altération dans ses traits ni dans sa voix. Sire, votre majesté comprendra au premier mot. Cet ami sait toutes les particularités de la tentative d'empoisonnement essayée sur monseigneur le prince de Condé. On a essayé d'empoisonner le prince de Condé? Demanda Henri avec un étonnement parfaitement joué. Ah, vraiment? Et quand cela? René regarda fixement le roi et répondit ces seuls mots. Il y a 8 jours, majesté. Quel ennemi? Demanda le roi. Oui, répondit René, un ennemi que votre majesté connaît et qui connaît votre majesté. En effet, dit Henri, je crois avoir entendu parler de cela, mais j'ignore les détails que votre ami veut me révéler, dites-vous. Eh bien, une pomme de senteur fut offerte au prince de Condé, mais par bonheur son médecin se trouva chez lui quand on la porta, il la prit des mains du messager et la flaira pour en essayer l'odeur et la vertu. Deux jours après, une enflure gangréneuse du visage, une extravasation de sang, une plaie vive qui lui dévora la face sur le prix de son dévouement ou le résultat de son imprudence. Malheureusement, répondit Henri, étant déjà à moitié catholique, j'ai perdu toute influence sur Monsieur de Condé. Votre ami aurait donc tort de s'adresser à moi. Ce n'était pas seulement auprès du prince de Condé que votre majesté pouvait, par son influence, être utile à mon ami, mais encore près du prince de Porcian, frère de celui qui était empoisonné. « Ah ça, dit Charlotte, savez-vous, René, que vos histoires sentent le trembleur? Vous sollicitez mal à propos. Il est tard. Votre conversation est mortuaire. En vérité, vos parfums valent mieux. » Et Charlotte étendit de nouveau la main sur la boîte d'opia. « Madame, dit René, avant de l'essayer, comme vous allez le faire, écouter ce que les méchants en peuvent tirer de cruels effets. » Henri fronça le sourcil, mais il comprit que René voulait en venir à un but qu'il n'entrevoyait pas encore, et il résolut de pousser jusqu'au bout cette conversation qui éveillait en lui de si douloureux souvenirs. « Et, reprit-il, vous connaissez aussi les détails de l'empoisonnement du prince de Porcian ?»« Oui, dit-il, on savait qu'il laissait brûler chaque soir une lampe près de son lit, on empoisonna l'huile et il fut asphyxié par l'odeur. » Henri crispa l'un sur l'autre ses doigts humides de sueur. « Ainsi donc, murmura-t-il, celui que vous nommez votre ami, sait non seulement les détails de cet empoisonnement, mais il en connaît l'auteur. Oui, et c'est pour cela qu'il eût voulu savoir de vous si vous auriez, sous le prince de Porcian, qui reste cette influence de lui faire pardonner au meurtrier la mort de son frère. » « Malheureusement, répondit Henri, étant encore à moitié huguenot, je n'ai aucune influence sur monsieur le prince de Porcian. Votre ami aurait donc tort de s'adresser à moi. Mais que pensez-vous des dispositions de monsieur le prince de Condé et monsieur de Porcian ? Ah, comment connaîtrais-je leurs dispositions, René ? Dieu, que je sache, ne m'a point donné le privilège de lire dans les cœurs. « Votre majesté peut s'interroger elle-même, dit le Florentin avec calme. N'y a-t-il pas dans la vie de votre majesté quelque événement si sombre qu'il puisse servir d'épreuve à la clémence, si douloureux qu'il soit une pierre de touche pour la générosité ?» Henri fit un suprême effort sur lui-même. Il désarma son front, qui, pendant les paroles du Florentin, s'était chargé de menaces, et, changeant la noble douleur filiale qui lui étreignait le cœur en vague méditation, « Dans ma vie, dit-il, un événement sombre ? Non, René, non. Je me rappelle de ma jeunesse que la folie et l'insouciance, mêlées aux nécessités plus ou moins cruelles qu'imposent à tous les besoins de la nature et les épreuves de Dieu. » René se contraignit à son tour en promenant son attention de Henri à Charlotte comme pour exciter l'un et retenir l'autre, car Charlotte, en effet, se remettant à sa toilette pour cacher la gêne que lui inspirait cette conversation, venait de nouveau d'étendre la main vers la boîte d'opia. « Mais enfin, sire, si vous étiez le frère du prince de Porcian ou le fils du prince de Condé et que l'on eût empoisonné votre frère ou assassiné votre père, » Charlotte poussa un léger cri et approcha de nouveau l'opia de ses lèvres. René vit le mouvement, mais cette fois, il ne l'arrêta ni de la parole ni du geste. Seulement, il s'écria « Au nom du ciel, répondez, sire, sire, si vous étiez à leur place, que feriez-vous ? » Henri se recueillit, essuya de sa main tremblante son front, où perlaient encore quelques gouttes de sueur froide, et, se levant de toute sa hauteur, il répondit, au milieu du silence qui suspendait jusqu'à la respiration de René et de Charlotte, « Si j'étais à leur place et que je fusse sûr d'être roi, c'est-à-dire de représenter Dieu sur la terre, je ferais comme Dieu, je pardonnerais. » « Madame, s'écria René en arrachant l'opia des mains de Madame de Sauve, « Madame, rendez-moi cette boîte. Mon garçon, je le vois, s'est trompé en vous l'apportant. Demain, je vous en enverrai une autre. »